Je vous invite à écouter trois textes. Le premier est dans l'Ancienne Alliance, second livre de Samuel, le chapitre 6, les versets 1 à 11. David réunit à nouveau toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. David se mit en route et partit, lui et tout le peuple qui était avec lui, de Baal et Yehuda, pour en faire monter l'arche de Dieu sur laquelle a été prononcé un nom, le nom du Seigneur de l'univers siégeant sur les chérubins. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Avinadav, située sur la colline. Uzza et Ahio, les fils d'Avinadav, conduisaient le chariot neuf. On l'emmena de la maison d'Avinadav, qui est sur la colline, avec l'arche de Dieu, et Ahio marchait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël s'ébattaient devant le Seigneur au son de tous les instruments, de genévriers, des lyres, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Ils arrivèrent à l'aire de Nakon. Uzza fit un geste en direction de l'arche de Dieu et il la saisit, car les bœufs allaient la renverser. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa, là, pour cette insolence. Il mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut bouleversé, parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en se ruant sur Uzza. Aujourd'hui encore, l'endroit s'appelle la brèche de Uzza. David eut peur du Seigneur en ce jour-là et dit, « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir chez moi ?» David renonça donc à transférer l'arche du Seigneur chez lui, dans la cité de David, et il la remisa dans la maison de Oved-Edom, le Guittite. L'arche du Seigneur demeura ainsi dans la maison de Oved-Edom, le Guittite, durant 3 mois, et le Seigneur bénit Oved-Edom et toute sa maison. Dans le Nouveau Testament, livre des Actes, c'est le texte que je vais commenter tout à l'heure dans la méditation, chapitre 4, verset 32 au chapitre 5, verset 13. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un lévite, originaire de Chypre. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété, d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans l'ordre ? Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré ? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent. Sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit « Oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit. « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter, toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'église et tous ceux qui apprenaient ces événements. troisième lecture, dans l'Épître aux Colossiens, c'est un des textes recommandés ce jour. J'essaie toujours d'en garder un parmi les textes. Le dimanche, il y en a trois ou quatre qui sont proposés. Donc, Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes, des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce à Dieu le Père. J'ai un peu écourté la lecture recommandée. Je vais oser juste la première ligne du verset suivant. Épouses, soyez soumises à vos maris comme il se doit dans le Seigneur. La Bible, vous le savez, cela signifie le livre. En réalité, c'est une bibliothèque. Il y a des livres de toutes sortes. J'ai oublié de noter combien il y en avait dans la Bible protestante, parce que ce n'est pas la même que les catholiques et les orthodoxes. Et dans ces livres différents, il y a des chapitres eux-mêmes très divers. Il y a des passages simples, des passages compliqués, des passages qui sont choquants, et des passages problématiques. C'est ainsi que je qualifierais problématique la triste histoire d'Ananias et Saphira. Et dans le Nouveau Testament, qui est un recueil de livres, donc, consacré au pardon, à la grâce, à l'amour, il y a ces versets qui nous racontent une punition terrible et immédiate pour une faute qui nous paraît assez vénielle. On dirait presque un épisode du Premier Testament. C'est pourquoi je vous ai lu l'épisode où ce pauvre Ouza est frappé par la main de l'Éternel pour avoir posé la main, osé toucher l'arche d'alliance, même si c'était dans une bonne intention, s'il s'agissait d'empêcher l'arche de tomber, les bœufs qui tiraient le chariot sacré ayant trébuché. Et néanmoins, Ouza a été frappé par la colère divine. Alors, il ne faut pas opposer les deux testaments, mais le fait est que l'idée d'un Dieu justicier, impitoyable, n'est guère en accord avec le Dieu que nous a annoncé Jésus. Ce dernier a d'ailleurs pris soin d'atténuer la différence en disant qu'il n'était pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Au passage, à propos d'Ananias et Saphira, on va y revenir, je vous rassure, si vous ne déposez pas toute votre fortune lors de l'offrande tout à l'heure, vous ne serez pas frappé par la colère divine. Si vous le faites, vous ne serez pas non plus frappé par la colère divine, je te signale. Mais vous aurez en plus la bénédiction éternelle de notre trésorier. Alors pour revenir sur ce texte curieux, je vous propose d'étudier dans un ordre qui n'est pas chronologique, d'abord le châtiment qui a frappé le couple, puis la faute qu'ils auraient commise, et enfin nous verrons l'attitude de Pierre dans cette circonstance. Alors le châtiment, Ananias et son épouse Saphira sont donc morts subitement, comme jadis Ouza. Pourtant, il y a une différence essentielle. Samuel, dans son second livre, dit clairement « La colère de Yahvé s'est enflammée contre Ouza et sa main l'a frappé. » Il n'y a rien de tel dans le cas d'Ananias et Saphira, tel que rapporté par Luc. Ces deux époux, successivement, tombent et expirent. C'est tout ce que nous dit Luc quant aux causes du décès. Sur un plan, médico-légal, on peut trouver une explication qui, j'ose à peine le dire, innocenterait Dieu. Ananias est conscient d'avoir péché. Il se présente, on peut supposer, mal à l'aise, inquiet, devant tous les apôtres. Il y a Pierre et les 11 autres, c'est pas rien. Et là, aussitôt, de but en blanc, Pierre l'accuse d'avoir eu partie liée avec Satan. On peut imaginer un choc psychologique, quand même, important, qui aurait causé le décès d'Ananias. Pour Saphira, c'est encore plus net. Alors bon, elle n'est que complice, mais lorsqu'elle se présente à son tour devant les apôtres, 3 heures après son époux, elle ignore ce qui s'est passé. Et Pierre de lui lancer sans ménagement, « Voici les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont aussi t'emporter. » Là aussi, un choc bien compréhensible. Alors, il y a un châtiment qui est lié à la faute commise, qui est lié par une forme de remords, exacerbé évidemment par les propos virulents et l'accusation impitoyable de Pierre, mais pas une manifestation directe de la colère divine. Alors la faute. La faute, le péché commis par le couple, est défini de façon un peu alambiquée par Pierre. Les versets précédents, je vous les ai lus, mentionnent que les fidèles pratiquaient une sorte de communisme primitif et qu'ainsi nul n'était dans le besoin. Ah, on peut se souvenir du conseil de Jésus au jeune homme riche. Vends tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Ananias, lui, il a conservé une partie du prix de vente de son bien. Au contraire d'un nommé Joseph, dit Barnabas, lévite de Chypre, que Luc mentionne avant comme un contre-exemple. C'est par là que Pierre débute son réquisitoire. Tu as détourné une partie du prix de ton champ. Puis l'apôtre développe et corrige cette accusation. En effet, Pierre rappelle qu'Ananias n'était pas obligé de vendre son champ, et l'ayant vendu, n'était pas contraint d'apporter la totalité du prix de vente à l'Église. Marc, chapitre 3 de son évangile, nous apprend que tous les péchés et blasphèmes seront pardonnés. Tous. Sauf les blasphèmes contre l'Esprit, qui constituent une faute éternelle. L'expression blasphème contre l'esprit, c'est un peu curieux, c'est un peu mystérieux quand même. Alors peut-être que c'est ça, ce qu'ont fait Ananias et Saphira. Ils ont blasphémé contre l'esprit, puisqu'ils sont punis, définitivement. Pierre dit bien qu'il ne s'agit pas d'une banale affaire de détournement d'une somme qui serait due à l'Église. La faute, c'est le mensonge à Dieu. C'est avoir dissimulé une somme, non pas en soi, mais pour se présenter comme plus généreux qu'Ananias ne l'est en réalité, par orgueil, par vanité. Je me souviens avoir ici défini le péché originel comme étant le mensonge et non la transgression de l'interdiction de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le blasphème contre l'esprit, dont parle Marc, le péché impardonnable, c'est donc bien le fait de mentir à Dieu. Le mensonge établit une distance entre soi et l'interlocuteur. Ananias s'est séparé de Dieu en dressant un obstacle, l'obstacle du mensonge, entre lui et le Créateur. C'est ça, un blasphème contre l'Esprit. C'est donc ça, un péché impardonnable. Venons-en à Pierre. On ne peut pas dire que le comportement de l'apôtre Pierre dans cet épisode soit rempli de charité chrétienne. Il ne demande même pas aux deux accusés de présenter un moyen de défense. Vous m'excusez de le rappeler, mais normalement, quand quelqu'un est suspect, on lui pose des questions. Il les accuse violemment. On ne sait pas d'où il tient sa connaissance des faits, mais enfin, sans doute de l'esprit, justement. Il les accuse aussitôt violemment avec des questions de pure rhétorique. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pierre n'attend pas de réponse ni d'excuse. À Saphira, il tend même un piège en lui demandant le véritable prix de vente du champ. Elle reste fidèle à son époux, soutient le mensonge, mal lui en prendra. Le récit de Luc est parfaitement narratif. L'auteur ne dit pas ce qu'il pense de cet épisode ni du comportement des personnes en présence. Il conclut seulement par « Une grande crainte s'empara de l'Église entière et de ceux qui apprirent ces choses. » On en revient à la mort d'Ouza. Je vous l'ai lu. David du père de Yahvé, nous dit Samuel. On peut aussi penser au verset suivant du livre des Actes. Les apôtres se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon à l'entrée du temple. Et personne d'autre n'osait se joindre à eux. C'est la peur qui domine dans ces 3 exemples. Peur que Pierre utilise pour accomplir le châtiment d'Ananias et Saphira. La crainte de Dieu, c'est un thème fréquent dans la Bible. Les psaumes, par exemple, sont sauvés, seront sauvés ceux qui craignent Dieu. les païens, qui étaient intéressés par le monothéisme, étaient appelés les craignants Dieu. C'est gênant, non, parce que la crainte, c'est le contraire de la foi. La foi, étymologiquement, c'est la confiance en Dieu, ce n'est pas la crainte. Rappelons-nous les paroles de Jésus, reprises par Paul. La foi, ce n'est pas la conviction que Dieu existe. Cette conviction, les démons l'ont aussi et ils tremblent. Ce sont les démons qui ont peur de Dieu, pas les fidèles. J'ai l'impression, c'est peut-être subjectif, que Luc ici veut nous faire partager son inquiétude face aux dérives de l'Église primitive. Je repense au conseil que donne Matthieu, chapitre 18 de son évangile. Si ton frère vient à pécher, tu essayes de le convaincre, puis tu viens avec un autre pour le convaincre, et ainsi, tu viens avec toute la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Ça a des petites allures de secte. Et Pierre ici a des caractéristiques d'un gourou dont on redoute la colère. On la redoute à raison, puisqu'elle va avoir des effets terribles. Si on s'en tient à la vieille plaisanterie, une religion, c'est une secte qui a réussi. Et au moment où se situe l'anecdote, le christianisme, alors je dis christianisme, le mot n'existe même pas encore, hein, sera forgé quelques années, voire une dizaine d'années plus tard. C'est encore une secte juive, et le christianisme, lui, en est à ses balbutiements. Si Jésus est mort en 30, là, nous sommes en 32-33. Les 7 diacres n'ont pas encore été désignés. Et le martyr d'Étienne n'a pas encore eu lieu. Paul n'est pas encore apparu dans le récit. Nous sommes vraiment au tout début. Le christianisme va se développer et devenir rapidement une véritable religion, abandonnant ses aspects sectaires. Très rapidement même. Le diacre Philippe va baptiser l'eunuque éthiopien. Pierre lui-même, par la suite, va évoluer, en étant beaucoup moins rigoriste, puisqu'il va aller, il va baptiser un centurion, le centurion Corneille, c'est au chapitre 10 des Actes. Et évidemment, il y aura tout le parcours de Paul, l'apôtre des païens. Je serais enclin, je le dis encore une fois, à penser que si Luc nous rapporte cette triste histoire, c'est pour mettre en garde l'Église contre un repli sectaire. Ses premiers fidèles, ces hommes de bien, dont le peuple célèbre les louanges, sans trop s'en approcher, ne doivent pas s'enfermer, se replier sur une communauté, même si cette communauté est en extension, et nous en sommes la preuve 2000 ans plus tard. Ils doivent s'ouvrir au monde, ces premiers apôtres, aux autres, aux prochains, qu'il faut aimer comme soi-même, sûrs de leur foi, de leur justice, de leur conviction. Ils ne doivent pourtant pas oublier le message fondamental de Jésus et de l'Évangile, message d'amour et de tolérance. Pierre, puis Paul, ainsi que les autres, dans les chapitres suivants du livre des Actes, vont s'ouvrir, aller porter l'Évangile aux extrémités de l'univers, et eux-mêmes en seront transformés. Lorsque Pierre baptise Corneille, c'est bien Pierre qui est converti, puisqu'il comprend à ce moment-là qu'aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Au XVIe siècle, les réformateurs ont su quitter une église, l'église romaine, ils ont su la réformer, d'où le nom d'ailleurs. Mais il faut nous souvenir de la belle devise, Semper Reformanda, je vous le traduis tout de suite, l'église doit tout le temps se réformer. Ça, réformer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi à la réforme pour la réforme, mais elle doit, fermement assise sur ses convictions, se réformer sans que ses convictions, surtout, deviennent des dogmes. Amen.